Kandinsky face aux images. Tel est le titre de l'exposition qui se tient jusqu'au 14 juin 2026 au LAM, Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de Villeneuve-d'Ascq, qui vient de rouvrir ses portes après 18 mois de travaux. Cette exposition est le résultat d'un partenariat entre le LAM et le Centre Pompidou, qui possède la plus belle collection d'œuvres de ce peintre, dont les plus importantes sont aujourd'hui exposées dans notre région. Kandinsky est considéré comme le pionnier de l'art abstrait. Né en 1866 à Moscou, c'est en France qu'il vivra ses dernières années pour y décéder le 13 décembre 1944. C'est très progressivement que Kandinsky se libérera de la figuration, c'est-à-dire pour un peintre, de la nécessité de représenter sur une toile un sujet reconnaissable par tous, un paysage, un visage, une nature morte par exemple. On peut dire que c'est en 1913, à l'âge de 34 ans, qu'il a achevé son passage à l'abstraction. C'est pour des raisons à la fois spirituelles et scientifiques qu'il va en arriver là. Dans une des 5 salles de l'exposition, on découvre des documents sur le thème de la légitimation, car cet artiste n'aura de cesse de faire comprendre son orientation. Nouvelle dans l'histoire de l'art, de la disparition pour lui de la figuration et de laisser place à l'abstraction. Peut écouter Angela Lampe du Centre Pompidou nous en parler. Elle est co-curatrice avec Jeanne-Bathilde Lacour du LAM et Hélène Trespeuch, historienne de l'art.
Et ça montre l'idée de cette science de l'art. Kandinsky cherchait à trouver des lois formelles, des lois aussi graphiques, des lois structurant des compositions de toutes sortes, donc à la fois l'architecture, l'astronomie et aussi des images scientifiques qui apportent une légitimation pour son art abstrait. Donc il voulait vraiment montrer, voilà, cette composition-là, on la retrouve aussi dans la nature, on la trouve dans l'architecture, on la trouve parfois sur le moteur, dans la technique, dans les inventions techniques, et tout ça, ça montre que cette abstraction n'est pas du tout une sornette de l'artiste, mais c'est vraiment un reflet d'une loi universelle.
Kandinsky s'est passionné pour les découvertes scientifiques de son époque, pour la photographie, mais aussi pour l'hypnose, la théosophie, le spiritisme et l'occultisme. Pour saisir les enjeux de cette exposition, c'est à Hélène Trespeuch que nous avons adressé nos questions.
« Alors, cette exposition s'appelle justement Kandinsky face aux images. Et en même temps, la réputation de Kandinsky, c'est d'avoir créé une œuvre sans sujet, donc de s'être débarrassé du sujet en peinture. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe ?
Tout à fait. Mais c'est ce qui rend ces recherches tout à fait passionnantes. L'idée étant de démontrer que Kandinsky coupe, en quelque sorte, abstrait sa peinture du réel, sans lui-même se couper du réel. Alors, je vais essayer d'être un peu plus concrète parce que ça n'est pas évident à comprendre. Dans son ouvrage Point et ligne sur plan, par exemple, il explique que le point est l'élément le plus petit du vocabulaire d'un peintre et que c'est également l'élément le plus petit de la nature. Il pense certainement à l'atome, mais il parle par exemple des graines, tout particulièrement des graines de pavot, desquelles vont germer une fleur. Donc ça, c'est la partie microcosmique du point, et puis il parle également des étoiles. Il reproduit une photographie d'une constellation d'étoiles dans cet ouvrage. Son idée étant de démontrer que si l'art abstrait est un règne autonome, eh bien c'est un règne autonome mais parallèle à celui de la nature, qui partage également certaines de ses règles structurelles. Pour Kandinsky, il y a des lois universelles qui régissent tout à la fois l'art et la nature. Et donc le point, la ligne, le plan sont des éléments présents autant dans la nature que dans l'art, qu'ils soient d'ailleurs abstraits ou figuratifs.
Alors, on a l'impression qu'il déconstruit, qu'il y a une évolution dans son œuvre, et que progressivement, à la fois, il déconstruit et il construit, c'est-à-dire qu'il crée un vocabulaire qui lui est propre. Alors, comment se sont faits ces différents moments de la construction de son œuvre ?
Enfin, il y a cet ouvrage.
Hélène Trespeuch, historienne de l'art.
Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, qu'il publie au début des années 1910, mais qu'il rédige en 1909-1910, c'est-à-dire bien avant de réaliser ses premières œuvres abstraites. Et il explique qu'on est encore à un stade trop peu avancé pour réaliser des œuvres abstraites pures, et que si on le faisait, si on se coupait complètement du réel, ce serait dangereux, puisqu'on risquerait, dit-il, écrit-il, de créer des œuvres qui ressembleraient à des cravates ou des tapis. Donc il faut trouver quelque chose de l'ordre de la nécessité intérieure, c'est-à-dire un moteur suffisant pour animer des œuvres, pour qu'elles soient vraiment parcourues de tensions, de vie en quelque sorte, et qu'elles n'apparaissent pas seulement comme des jolies formes avec des jolies couleurs. Donc après, son évolution, eh bien, elle se fait au gré de sa vie, de ses réflexions, des différents lieux dans lesquels il se trouve. Donc les années 1900 sont les années des voyages avec Gabriel Münter, par exemple. Les années 1910 sont vraiment celles de son cheminement progressif vers l'art abstrait, des dynamiques très lyriques. Les années 1920 sont davantage les années géométriques, avec des lignes très droites. Et puis les années 30 sont celles d'un vocabulaire biomorphique. Alors ça, c'est un discours d'historien de l'art, hein, qui range dans des catégories bien nettes un artiste selon les décennies. Mais en réalité, ce sont vraiment des évolutions très, très progressives, au gré des intérêts que découvre Kandinsky, qui font sens pour lui à un moment donné. Mais il y a des éléments récurrents dans des motifs stylisés, par exemple. C'est-à-dire que la première salle présente des photographies de cavaliers. Le cavalier bleu, c'est l'objet de la seconde salle. Enfin, c'est en tout cas le titre de cette publication. Et donc, ce motif du cavalier, il est récurrent, hein, dans l'œuvre de Kandinsky. Et on le retrouve dans cette salle, mais de manière très, très stylisée. On voit encore la crinière du cheval avec une sorte de petite crête sur... sur la tête. Et on retrouve encore, si ça vous intéresse, je pourrais vous présenter un cavalier dans les œuvres de la dernière période, mais qui sont extrêmement stylisés, donc qui ne sont pas destinés à être lus, perçus, identifiés comme des cavaliers, mais qui font partie des logiques du processus créatif de Kandinsky. Donc il n'y a pas de frontière hermétique entre ces différentes périodes.
Dire qu'il fait en même temps une recherche mystique, ésotérique, ou est-ce que c'est plutôt le fait qu'il ait un grand intérêt pour la foi, pour la religion orthodoxe, qui fait qu'il s'est affranchi progressivement de tout ce qui pouvait gêner ce rapport à un essentiel?
Alors, je ne sais pas si je suis parfaitement habilitée pour répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que si on s'attache à sa culture visuelle, il la partage avec beaucoup d'autres artistes de la même époque, qui sont également marqués par cette manière dont semblent s'entremêler au début du XXe siècle les sciences ésotériques, les sciences occultes et les sciences dures. Par exemple, à la fin du XIXe siècle, sont diffusées les premières photographies du rayon X, et c'est quelque chose qui est presque de l'ordre de la science-fiction pour ces artistes, hein, de réussir à prendre une photographie d'un corps vivant sans être obligé de décorcher pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et donc, cette progression de la modernité technologique pousse Kandinsky, mais Kupka à la même manière, à la même époque, et de la même manière à penser à la photographie, enfin penser que la photographie à un moment puisse être capable de photographier la pensée. Il rêve, comme Kupka, de transmettre presque de manière télépathique les images mentales qu'il aurait de ses compositions picturales imaginées. Donc il y a la religion, mais il y a aussi ces éléments-là de mélange de spiritualité, de sciences occultes. Et c'est vrai que c'est très présent chez Kandinsky dans les années 1900-1910. Il y a quelques éléments qui perdurent dans les années 1920, mais voilà, ça s'atténue un petit peu avec le temps. C'est vrai que les années 1920 du Bauhaus, hein, sont beaucoup plus scientifiques, mais avec cette idée effectivement de créer un monde en soi qui offre la possibilité au spectateur de ressentir des émotions directes, hein, sans la transition, sans la médiation pour le spectateur, enfin sans avoir l'exigence pour le spectateur d'identifier un sujet de représentation qui fasse écho à des choses connues ou pas du tout.
Ce qui est troublant dans son œuvre, c'est qu'à la fois on a l'impression qu'il n'y a pas une seule ligne qui soit posée par hasard sur le tableau, et que donc il y a une histoire à raconter sur chaque courbe, chaque ligne et chaque couleur, et qu'en même temps, l'élément terminé, l'œuvre terminée, échappe à Kandinsky, et qu'après tout, elle nous appartient, et nous en faisons ce que nous voulons.
Bien sûr. C'est la grande liberté du spectateur. Alors, je pense que c'est souvent le cas, hein, même pour des artistes figuratifs. Le fait de décider qu'une œuvre est terminée, c'est accepter qu'elle appartienne désormais au regardeur, comme disait Marcel Duchamp. Mais c'est vrai que c'est particulièrement exacerbé dans le cas d'œuvres abstraites qui sollicitent davantage l'imaginaire des spectateurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Et voilà, il ne vous reste plus qu'à aller voir par vous-même et vous plonger dans un bain de formes et de couleurs, et pourquoi pas, écrire votre histoire intime avec un tableau de Kandinsky. N'oubliez pas d'amener des enfants dont Kandinsky collectionnait les dessins qui le passionnaient pour leur richesse, loin de tout académisme. C'était Kandinsky face aux images, un reportage de Francine Augéret pour Radio Boomerang.